moyen pour pouvoir justement participer à la dialectique du truc, au mouvement. Et puis chacun doit se formuler justement son paradigme, construire son objet, bricoler son truc, jusqu'au fantasme. Hein, parce que, vous voyez, ça c'est un fantasme, hein, c'est comme la formule de Newton, hein, ça. C'est une formule de logique. C'est certainement une partie importante de mon fantasme. Bon. Et moi, c'est par le symptôme que je suis arrivé là, hein, parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait une différence justement entre les deux. Tenez, pourquoi il y avait une différence entre les fonctions propositionnelles et les propositions? Moi, je ne comprenais pas pourquoi le cahier de brouillon et le cahier de classe, on faisait une différence, puisque je m'étais rendu compte, comme un enfant débile, mais donc très intelligent, je m'étais rendu compte qu'on apprenait qu'en se trompant et en faisant des tâches, en faisant des gribouillis, et qu'il fallait gribouiller, il fallait déconner, il fallait faire plein de saloperies comme ça, pour pouvoir réussir à avancer, à apprendre. Donc, j'ai fait des mathématiques comme ça. Et moi, vous savez, c'est plutôt une tâche aride d'essayer de faire une copie bien propre, pour donner un devoir bien joli, tissé, tout ça. Même chose avec l'écriture de la langue, etc. Bon. Donc, j'avais du mal à piger ce que c'était que cette notion d'assertion, justement. Le fait que la parole, ça, c'est quelque chose qui doit être dit et qui doit être vrai. Vous voyez bien, c'est pour ça que depuis, j'ai quand même appris grâce à la psychanalyse, par exemple, que le mensonge était une des meilleures façons de faire bien voir la différence qu'il y avait entre un énoncé, qui peut être vrai ou faux, et une assertion. Hein. Puisque le reproche qu'on fait à celui qui ment, c'est pas la fausseté des informations qu'il fournit, celui qui ment. C'est pas des informations fausses, le menteur. C'est celui qui doit dire vrai et qui dit faux. C'est le fait de le dire. C'est pas que les informations soient fausses, je vous l'ai déjà dit, hein. Bon, en ce moment, c'est un peu difficile de faire le coup du il fait jour, il fait nuit, parce qu'on sait plus très bien à quelle heure on est, là. Mais enfin bon, il fait encore jour. Donc il fait jour. Si je vous dis, je vais vous dire une chose fausse. Il fait nuit en ce moment à Paris. Vous regardez, vous dites non, il fait pas nuit encore. Bon, c'est pas un mensonge, vous voyez. Un mensonge, c'est quelqu'un qui dit quelque chose qu'il veut faire passer pour vrai, et en plus du fait qu'il le dise, et ça devient une faute éthique, ou pour certains, c'est pas une faute morale, ça devient une faute, c'est une faute à l'égard de quoi? Ben, à l'égard de ce fameux grand autre, le grand autre étant justement ce lieu nécessaire pour que la vérité de la parole puisse avoir une référence en un lieu qui est dit trésor des signifiants et qui est dit le lieu, voyez-vous, auquel on se réfère quand on parle. Bon, c'est pour ça que moi, le gars qui m'a dit un jour que qui s'est conduit avec moi très mal en me disant des horreurs, eh bien, je ne trouve pas du tout ça, pas du tout ça, quelque chose de juste d'un point de vue politique, et je ne lui adresserai pas la parole tant qu'il ne l'aura pas reconnue. Hein. On ne peut pas dire n'importe quoi. Moi, j'ai été sidéré de rencontrer, si vous voulez, dans la psychanalyse, des gens qui, d'une mauvaise foi, mais absolue, uniquement parce qu'ils étaient obnubilés, je ne sais pas par quoi exactement, d'ailleurs. Ça s'appelle le pouvoir, l'argent, je ne sais pas. Mais enfin, j'ai quand même. Je ne crois pas qu'on doit être meilleur ou parfait dans la psychanalyse, sûrement pas. Mais de là à s'essuyer les pieds sur le savoir, c'est ce que j'ai fait remarquer aux assises organisées par l'association. L'association de Jacques Lacan, la psychanalyse de Jacques Lacan. Ils ont le titre de leur. Pour moi, le titre de leur congrès a été une révélation. C'est ce que je pense depuis maintenant 30 ans. Il y a dans la psychanalyse des gens qui s'assoient sur le savoir. Eux, ils ont voulu faire des assises et ils ont appelé ça assises sur le savoir de la psychanalyse. Alors, ils auraient pu dire assises du savoir ou assises à propos. Non, assises sur le savoir. Donc, c'était tellement parfait que je suis allé leur dire bravo. Et moi, ça fait 30 ans que je vis là-dedans, dans une horreur. Parce que, à mon avis, c'est l'ordre du camp de concentration, hein. Le fait que s'il n'y a plus de lieu, s'il n'y a plus rien de vaut, hein, si les travaux effectués, vous voyez, ça n'intéresse personne, je vous promets que ça peut laisser la place à Sarkozy, quoi. Moi, je ne m'étonne pas, parce que dans la psychanalyse elle-même, c'est comme ça. Hein. On s'assied sur le savoir, on dit, il faut être un petit con pour y croire encore, Bon, moi je ne dis pas que ça a un effet automatique. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tout ce savoir, toute cette écriture au tableau, c'est pas fait pour analyser les autres, c'est fait pour que je m'analyse moi. Et je vous le mets au tableau pour que vous en fassiez votre graine pour faire votre boulot à vous, si ça vous chante. Vous comprenez? Moi, je n'ai rien à prouver. Et ce que je trouve passionnant, par contre, je ne laisserai pas dire qu'avec Freud et avec Lacan, on ne trouve pas à construire les questions les plus importantes qu'on se pose et de trouver des réponses à ces questions grâce au discours analytique, et que même ces réponses vont être des innovations et que les bonnes réponses conduisent à de nouvelles questions, et que je suis très fier de ne plus me poser les mêmes questions que celles que je me posais à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, celles que se posaient mes petits camarades et que je te pose encore. Moi, j'ai des copains avec qui j'ai fait des études au lycée, et ils sont toujours, ils n'ont pas fait d'analyse. Si vous voyez comment ils ont le cul serré à propos de savoir s'ils sont impuissants ou s'ils vont être capables auprès des dames, ou au contraire s'ils sont homosexuels ou s'ils sont ceci ou cela, et puis qu'ils vont ensuite même éditer des décrets.
Bon, moi ce qui m'ennuie avec mes amis, c'est que je les aime bien, j'aime bien les gens généreux, mais j'ai quand même un gros problème avec eux, c'est qu'ils n'ont rien foutu de leur vie à notre époque. Bon, ils ont que des préjugés. Alors, la plupart de mes amis sont de gauche, mais même avec les gens de gauche, je suis sidéré. Enfin, je veux dire, c'est que des préjugés. Alors, je préfère les gens généreux, sympas. Bon, pour boire un coup, c'est bien. Mais quand même, d'un point de vue de la civilisation, c'est une calamité. Quoi. Je veux dire, on est dans un monde. Je vous dis, lisez Thomas Mann, lisez Musil, vous allez voir. Dans les années 30, on ne se posait pas les problèmes que nous rencontrons, nous, aujourd'hui, de la même manière. Hein? Et même la crise économique de 29, elle n'était pas du tout présentée de la même manière. On croit qu'on a fait un progrès parce que les gens jettent plus par la fenêtre à Wall Street. Bon. Vous voulez dire quelque chose?
Oui, au sujet de cette notion de mensonge, est-ce que vous pouvez nous élaborer un peu sur le fait que la vérité est menteuse?
Non, c'est pas que la vérité est menteuse. Moi, je crois que la vérité, elle n'est pas menteuse. La vérité, elle est fictive. Elle est fictive, mais elle n'est pas menteuse. Non, elle n'est pas menteuse. C'est pour ça, si vous voulez, moi je crois pas. Si vous dites ça, vous allez virer Pivot de la manière suivante. Vous voyez, Pivot, quand on fait un roman, les mecs arrivent avec leur roman et puis ils racontent un peu leur vie dans leur roman. Alors, Pivot, est-ce qu'il rate jamais tout? Vous vous souvenez, apostrophe? Il disait, bon, mais alors dites-nous, écoutez, votre roman, quoi, c'est autobiographique. Bon. C'est forcé que n'importe qui écrit, c'est toujours, même faire des maths, c'est autobiographique. Donc c'est parce que les gens, les fameux cliniciens, ils savent pas lire, ils savent pas écrire, et donc c'est pour ça qu'ils s'en aperçoivent pas. Ils croient que c'est abstrait et théorique. Ça n'a rien d'abstrait. C'est pas de l'abstraction, c'est de la craie sur le tableau. Mais en plus, il y a quelque chose qui aussi n'est pas abstrait, c'est qu'il y a de la matière à écrire, de la matière d'écriture, de la matière à parler, et que le signifiant et la lettre, c'est du matériau qui a des lois et qui sont des lois beaucoup plus importantes pour nous que les lois de la physique, même de la chute des corps. Hein. On est admiratif parce que Newton a réussi à trouver la formule de la gravitation. Mais ça concerne jamais que les billes. Vous voyez, bon, c'est très joli. Regardez un peu l'esprit potache de l'humanité quand même. On a inventé une plaisanterie. Vous connaissez cette plaisanterie à propos de la gravitation? Hein, on demande à un copain, alors qu'est-ce qui est plus lourd, un kilo de plomb ou un kilo de plume, hein? Vous connaissez ça? Bon. Alors, vous voyez bien que c'est un jeu sur le mot et qu'on élude le mot kilo. Vous voyez, il s'oublie le mot kilo. Un kilo de plume ou un kilo de plomb, parce que la réponse est entre un kilo de plume et un kilo de plomb, ça a le même poids. Bon, mais on est en train de faire quoi? On est en train de faire une plaisanterie sur le tube de Newton. Vous connaissez tous le tube de Newton. Hein, on prend un tube en verre avec un robinet. On fait une vide à l'intérieur et dedans on a mis une bille en plomb et une plume. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quand on prend le tube de Newton qui est comme ça horizontal et on le met vertical, la plume et la bille, hop, elles tombent ensemble. Il n'y a plus d'air pour faire le frottement et la gravitation est la même pour les deux, indépendamment de la masse, c'est l'accélération. Hein. La gravitation, c'est l'accélération. Donc le tube de Newton, vous voyez, comment est-ce que toute l'humanité moderne, au lieu de penser avec Newton, comment est-ce qu'elle s'en sort? Elle s'en sert avec une plaisanterie de gamin. Bon, moi, j'aime beaucoup les plaisanteries. Je la trouve très bonne, l'histoire du kilo de plume et du kilo de plomb. Mais vous voyez bien qu'on est passé de la gravitation, hein, que personne ne comprend. On ne comprend pas que la découverte de Newton, c'est que à un point de la Terre, en fonction de l'altitude, de toute une série de facteurs, vous avez une constante de gravitation. Et que n'importe quel corps, quelle que soit sa masse et sa forme, s'il n'y a plus d'air, ce qui ralentit la plume, c'est l'air qui fait que la plume, elle a une portée que n'a pas la bille. La bille, elle a une forme aérodynamique qui lui fait traverser l'air d'une manière différente de la plume. Okay. Donc quand vous faites le vide, si vous arrivez à pomper l'air, le sortir du tube de Newton, au moment où vous faites tomber plume ou aiguille, et on a fait l'expérience à la tour de Pise, même Pascal il a recommencé la même expérience aussi au Châtelet, là, vous voyez, là, ça s'appelle comment la tour qui est au Châtelet, la tour Saint-Jacques. Bon, ils ont pris des objets qui ont des formes, qui ont des masses très différentes et des formes à peu près équivalentes pour essayer de voir justement si le mouvement s'accompagnait bien. Vous voyez ? Et c'est un fait que ça marche comme ça. Mais, comment ?
L'expérience de la
tour de Pise. Oui. Bah, c'était Torricelli qui faisait ça, on a gagné. Non ? Non, c'est pas gagné, c'est Torricelli. Bon. On va réviser notre histoire des sciences, mais je crois que c'est. Mais c'est de ça dont s'est inspiré Pascal. Mais justement, lui, Pascal, il s'en foutait complètement du vide. Lui, ce qu'il voulait, c'était convaincre qu'il fallait être janséniste. Hein. Bon. Alors, c'est un autre débat. Mais il y a même un type qui a écrit un livre pour démontrer que les expériences de Pascal étaient complètement falsifiées et fantaisistes, et que de toute façon, l'enjeu, c'était d'arriver à faire taire les ignorants. Bon. Le concours de la roulette, c'est la même chose. Moi, j'aime beaucoup le concours de la roulette. Révéler que personne n'a réussi à trouver la solution au concours de la roulette, et que le seul qui a trouvé la solution, c'est celui qui a formulé le concours et qui l'a dédié au concours, c'est qu'il se révèle il révèle enfin son nom, c'est Blaise Pascal. C'est bien pour convaincre tout le monde, c'était une idée des jansénistes, vous voyez, la propagande. On a dans notre camp le plus intelligent des mecs de notre époque. Alors vous comprenez, ça doit être notre doctrine religieuse, doit être vrai. Parce que le mec le plus intelligent, il est avec nous. Alors c'est même pour ça qu'il y a des psychanalystes qui voudraient être le plus intelligent des psychanalystes et même pas. Parce qu'ils pensent que moi, mon rôle, ce serait d'être une grosse tête et de convaincre les autres que la psychanalyse c'est bien parce que je suis très intelligent, parce que je fais des maths. C'est complètement abouti, les maths, c'est pas du tout une histoire de grosse tête. C'est pas du tout, c'est une histoire d'intelligence, mais pas de grosse capacité. Hein. Donc, c'est plutôt quelque chose de la manière, bon, bah, c'est comme dans toutes les disciplines. Quoi. Pour arriver à quelque chose, il faut d'abord beaucoup gâcher, il faut se tromper, comme le dit magnifiquement Samuel Beckett, hein. On rate toujours quand on essaye de faire quelque chose, on rate toujours. Mais il y a mille façons de rater. C'est ça qui est intéressant. Moi, je pense que c'est une esthétique. Et donc, le mensonge, vous voyez, c'est la vérité, elle n'est pas menteuse. Mais par contre, ce que je suis en train de découvrir, c'est une chose qui se formule quand je vois la façon dont on reçoit Freud, quand je vois l'histoire de Onfray, tout ça, j'en suis arrivé à penser qu'effectivement, le rabaissement de la sexualité chez l'homme, elle est liée au fait que la sexualité, elle est liée à la raison. Et elle est liée, ce rabaissement est lié au fait que c'est plutôt la raison qui est rabaissée. Et ce que je suis en train de découvrir, c'est que la logique freudienne, c'est-à-dire cette topologie, vous voyez, cette différence entre ça et ça, là, il y a déjà quelque chose dans cet espace qui s'intermédiaire. Il y a quelque chose qui est. Alors, est-ce que c'est lié à la répétition freudienne? Est-ce que c'est lié à l'autre côté du principe du plaisir? Vous avez le principe du plaisir d'un côté? Ça va donner la satisfaction, puis de l'autre côté, vous avez la même chose et ça s'appelle l'angoisse. Bon, hein, la satisfaction, la jouissance se transforme en angoisse. Bon. Quand Lacan pose la question de voir s'il y a une substance jouissance, il aurait pu aussi formuler la question en disant est-ce qu'il y a une substance angoisse? Eh bien, il semblerait bien qu'il y ait une substance angoisse. Hein. Vous voyez? Bon, je vous ai fait remarquer. Une substance angoisse que le sujet, vraiment, quand la substance angoisse vient, là, le sujet, il s'en rend compte, et c'est vraiment abject. Ça vient du corps. Alors justement, c'est très amusant, parce que Barbara Cassin, dans son petit truc, vous avez lu depuis une semaine ou deux ce petit livre, C'est magnifique, hein. Voilà enfin quelqu'un qui lit Lacan. Enfin, moi, ça m'a réconforté. Je me suis dit, ouf. Enfin, moi, je la connais un peu. Je l'ai rencontrée à Buenos Aires, Barbara Cassin. Et j'adore l'effet sophistique, là, son gros bouquin. Mais là, vous avez vu sur quoi comment elle conclut son propos. Bon, hein, vous allez voir. Lisez ça, parce que vous allez voir que l'objet titre de Lacan, c'est pas une invention de Lacan, c'est Démocrite, hein, qui a inventé ça. Hein, je vous l'ai dit la dernière fois, le den, le méden et le ouden. Hein, lisez ça. Et alors, la dernière phrase qu'elle utilise, hein, c'est une phrase dans Encore. Maintenant, la jouissance du corps. C'est une phrase de Lacan, hein, dans Encore. Maintenant, la jouissance du corps. S'il n'y a pas de rapport sexuel, il faudrait voir à quoi ça peut servir. Elle a oublié un mot, parce que là, dans le texte de Lacan, enfin, selon les éditions du Seuil, hein, il faudrait voir à quoi ça peut lui servir. Là, il y a un « lui » qui est éludé dans la version Cassin. Bon. Maintenant, la jouissance du corps. S'il n'y a pas de rapport sexuel, il faudrait voir à quoi ça peut servir. Alors, Lacan continue après sa leçon. Elle n'est pas finie. C'est pas le dernier mot de la leçon, là. C'est page 67, là, encore, hein, dans les éditions du Seuil. Donc, c'est bien les éditions du Seuil. À quoi ça peut lui servir, au rapport sexuel, la jouissance du corps, puisqu'il n'y en a pas, hein? La jouissance du corps, à quoi ça peut lui servir? Alors, Lacan, il rentre dans une réflexion tout à fait passionnante. Il fait remarquer que cette jouissance, justement, il fait tout un discours pour parler de la jouissance féminine, comme cette jouissance, bon, c'est ce qu'il a dit à un autre endroit dans le séminaire, cette jouissance qui est celle qu'il ne faudrait pas que ce soit celle-là. C'est assez proche de la trivialisation, vous voyez. La négation modifiée, il ne faudrait pas que ce soit celle-là. C'est-à-dire que si vous l'employez en bille, en tête, vous allez la trivialiser. Donc vous n'avez pas intérêt à le dire trop. À l'employer à tort et à travers, cette négation modifiée. Parce que elle peut se détruire elle-même. Son emploi va la détruire. C'est le contraire, si vous voulez, des deux mains de Escher, de ce qui, à mon avis, ont fait flipper Hegel quand il a fini la phénologie de l'esprit. Quand il s'est aperçu, Hegel, qu'il était à Iéna en train de raconter la fin de l'histoire et qu'il y avait Napoléon qui était en train de faire la bataille d'Iéna et que Hegel, justement, dans l'après-midi, avait écrit une lettre dans laquelle il disait cette étoile du monde, en parlant de Napoléon, bien sûr, quand même, vraiment, ça fait la tête contre le mur, mais cette étoile du monde, et l'étoile du monde, et qui était là en train de conquérir, et qui marchait à cheval le long du bord de la falaise de l'histoire. Vous voyez, c'est ce que Kojève appelle cette fameuse bataille, la bataille d'Iéna. Bon, il est en train de finir d'écrire la phénoménologie de l'esprit. Et à ce moment-là, il est en train d'expliquer, lui, l'intellectuel bourgeois, il est en train d'expliquer au bourgeois, et qui est la synthèse de l'esclave et du maître, qu'il est en train de devenir le citoyen universel, le bourgeois, c'est Napoléon. C'est le résultat de la Révolution française. Comme quoi, il ne voyait pas du tout que c'était déjà la Restauration, les gars. Bon, lui, il était enthousiasmé par Napoléon, les Français. Donc, il va écrire une lettre plus tard dans laquelle il témoigne que là, il a eu un moment de dépression très très fort. Hein, j'ai oublié cette lettre, vous l'avez déjà lue, cette lettre. Si vous ne l'avez pas, il faut m'écrire, je vous l'envoie.
La maladie va te sauver.
Comment ?
Jusqu'au bout de ta maladie.
Oui, c'est ce qui te rend malade, il dit un interlocuteur. J'ai connu cette difficulté-là. Et il ne faut pas arrêter son travail, il faut se reposer, puis revenir au travail, parce que c'est ce travail qui vous rend malade qui va vous guérir. Il faut mettre ça au fronton d'une association de psychanalyse. Hein. On n'est pas là pour dire aux gens là, mon pauvre petit, comme vous êtes malheureux, répondre à la demande, vous savez, services sociaux. Ouais. Parce que les psychiatres, ils sont emmerdés, ils ont leur service à l'hôpital, ils sont obligés de faire un message. Non, la psychanalyse, on est là pour aider, comme les gens qui disent aujourd'hui qu'on m'aide, vous voyez. Regardez où ça conduit l'aide. Bon. Moi, je dis qu'il ne faut pas être cruel avec les gens qui sont dans le malheur. Il ne faut pas aller en plus leur appuyer la tête pour les enfoncer la tête sous l'eau. C'est ça la différence. Vous voyez, je ne suis pas à dire qu'il faut pleurer avec eux, la mansuétude, leur prendre la main, tout ça ne sert à rien. Bon. Non, ça ne se partage pas. Excusez-moi, ça ne se partage pas. Ni la jouissance, ni l'angoisse ne se partagent. Hein. Et moi, j'ai même constaté ça aussi à la naissance de mes enfants. Je vous promets que j'étais en dehors du coup. Bon, aussi bien pour l'allaitement que pour les conditions. Bon, toujours est-il qu'il y a des moments comme ça où on s'aperçoit que le corps, ça fait des trucs curieux. Et il y a une solitude absolue. Bon. Alors, vous voyez, Escher, lui, il a dessiné, c'est un peu comme ça que je me représente la fin de l'histoire chez Hegel, il a dessiné une main qui dessine une autre main, et l'autre main que la main est en train de dessiner, elle-même, elle dessine la main, la première. Bon. Et là, vous avez quelque chose de cette espèce de miroir dont je vous parle, qui est une sorte de... On peut dire quoi, c'est une illusion, mais c'est pas une illusion puisque ça nous constitue. C'est ça qu'il faut voir, c'est que ça nous constitue comme sujet. Donc il faudrait plutôt que de dire oui, c'est illusoire, allez, on va tout forclore, on va plus de sujet, plus de langue, plus de parole, plus d'écriture, on va faire que de la communication, de la représentation, du sémaphore, ça va être bien, et les enfants, on les mettra dans des éprouvettes, avec, on secoue un peu les éprouvettes, et alors ça va faire des bons bébés. Non, mais c'est comme ça le monde actuel, hein, c'est exactement ça. Mais bon. On va faire des dossiers intelligents dans votre ordinateur. Bon, je continue à avoir des Apple, mais ils appellent ça dossier intelligent. Moi, je pense qu'un dossier ne peut pas être intelligent.
Jean-Claude Lacan.
Comment ?
Jean-Claude l'ADI pour Lacan.
Oui, ils ont une autre idée de l'ADI. Dossier intelligent. Alors, donc, cette histoire de Lacan qui vous parle de la jouissance qu'il ne faudrait pas que ce soit celle-là, cette jouissance phare. Et puis il continue à broder en disant que finalement c'est une jouissance dont les collègues psychanalystes ne disent rien, qu'on n'apprend rien dessus, il n'y a pas de témoignage, on aimerait bien qu'elles en disent un peu plus, les dames, etc. Et puis il finit par en venir à dire mais peut-être qu'elles ne peuvent pas en dire grand-chose parce que peut-être qu'elles l'éprouvent mais elles ne s'en rendent pas compte. Alors ça devient quand même assez croquignolé comme réflexion. Hein, la jouissance femme, moi je suis persuadé que c'est vrai, que c'est parce qu'elle ne se la raconte pas. Il faut se la raconter pour les fous. Si vous ne vous la racontez pas, vous ne l'éprouvez pas. Bon, donc elle l'éprouve, mais elle ne s'en rend pas compte, dit Lacan. C'est quelque chose qui reste inconscient ou en dehors de la conscience. Et du coup, il conclut, je trouve ça c'est un complément aux études de psychologie de Freud sur la vie amoureuse, une petite contribution, vous savez, le tabou de la virginité, le choix d'objet, et puis le rabaissement de la sexualité chez l'homme. Lacan, il conclut en disant, bon, ben alors écoutez, ben, peut-être ça jette un doute sur cette fameuse frigidité féminine. Peut-être que les dames qui disent qu'elles sont frigides, elles sont simplement, elles l'éprouvent, mais elles ne s'en rendent pas compte. Vous voyez, bon, c'est assez intéressant. Barbara Cassin, elle s'est arrêtée juste avant. Vous voyez, à mon avis, c'est parce que ça doit. Elle s'est arrêtée dans son texte, hein, avec cette citation, page 67. Donc lisez la fin de la page 67 et la page 68. Vous allez voir, c'est très amusant si vous vous accrochez un peu en essayant de vraiment voir qu'est-ce que raconte Lacan. Il dit ça exactement. Vous voyez, cette jouissance du corps, hein. Il faudrait voir à quoi ça peut servir. S'il pose la question, c'est qu'il a l'idée. Ça peut servir, bon, à rien de plus que la jouissance, de toute façon. Hein. Mais cette jouissance du corps, c'est pas qu'il y a du rapport sexuel, c'est qu'il peut justement, du fait qu'il n'y ait pas de rapport sexuel, il peut même y avoir jouissance sans que le sujet soit au courant. Donc, et même, il arrive qu'il s'en plaigne, qu'il ne l'atteint pas, qu'il ne la connaît pas. Il peut se plaindre qu'il ne la connaît pas parce qu'on lui a dit, hein, mais... il la connaît pas. Donc si on lui avait pas dit, hein, c'est un peu comme tirer le diable, mais c'est auprès de qui on va se renseigner, hein, Daphnis et Chloé.
Si c'est la voisine, ce ne sera pas la même chose.
Et si c'est la voisine, c'est
très compliqué, tout ça.
Oui, c'est bien sûr. Et donc je vous dis qu'on est en plein dans les miroirs, n'est-ce pas, dans les choses qui sont en double, qui se dédoublent et qui s'identifient. Et on est dans le langage, on est dans le phonème. Le phonème, c'est « Ah, tenez, Godard, dans son dernier film, il cite Jacobson, les conférences, les six leçons sur le son et le sens. Les six conférences ici. Il dit, Jacobson, en 1942 à New York, dans des conférences, dans des leçons, des cours aux hautes études pratiques, c'est ça, les six leçons sur le son et le sens. Hein. Donc je me tue à vous dire qu'il faut que vous achetiez ça aux éditions de minuit. Hein, parce qu'ils en ont encore plein, personne n'a lu ça, c'est intéressant. C'est la clé du structuralisme. C'est formidable, les six leçons. Alors, vous savez comment il résume ça, Godard, les six leçons, il dit, Jacobson a découvert qu'on ne peut pas séparer le son du sens, et c'est ça qu'on appelle phonème. Assez joli. Moi, je n'ai pas lu cette phrase dans Jacobson, mais je trouve que, je ne sais pas si elle y est, vous pouvez essayer de vérifier. Si elle y est, très bien, elle m'a échappé, et si elle n'y est pas, c'est Godard qui a raison de toute façon. C'est une très belle formule pour dire justement qu'est-ce que c'est que ce problème de l'Œdipe, hein, papa-maman, pas de rapport sexuel, pas de jouissance autre, pas de jouissance de l'autre, vous voyez, ou de la jouissance de l'autre inaccessible. Mais c'est peut-être que justement, on ne sait pas y faire avec la langue, la parole et l'écriture. Et que ça, cette vous voyez, Lacan, il arrive quand même à formuler le signifiant en disant le signifiant, c'est insignifiant, qui représente un sujet pour un autre signifiant. Tout de suite, Poincaré, il aurait élevé les bras au ciel, là. Je n'ai pas parlé tout ce soir de Poincaré, mais Poincaré, il vous aurait dit anti-prédicatif. Hein. Vous avez même chez Frein, vous avez tout un livre sur le débat avec Zermelot, Russell, Poincaré. Tout. Le premier intuitionnisme, leur conclusion, c'était de dire la cause de tous les paradoxes, c'est les énoncés anti-prédicatifs. Vous savez ce que c'est? C'est exactement l'énoncé de Lacan. C'est un énoncé qui contient. Hein, parmi les mots qui permettent de définir un mot, une définition donc qui contient le mot qui est en train d'être défini. Vous voyez ? Qu'est-ce que c'est que le signifiant ? Le signifiant, c'est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant. Donc dans la définition du signifiant, vous avez le mot signifiant. Ce genre de mot, hein, c'était réputé comme tordu, pas bon. Vous voyez ? C'est vrai que ça finit par faire le discours, hein. Ça peut créer une contradiction énorme. Bon. Mais c'est pas forcé, justement. C'est ça qu'il faut peut-être faire exister, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis, vérité, c'est pas qu'elle est menteuse, elle est fictive, hein, et qu'il y aurait peut-être moyen de faire des constructions comme celle de la mère. Regardez, le rêve, il fait quoi? Le rêve, il écrit un texte dans lequel cette femme, il est faux que ce soit sa mère, il est faux que ce soit pas sa mère. Alors, quel est son statut ontologique? Qu'est-ce que vont dire les philosophes, les ontologues? Alors, il y a une réponse facile, vous voyez, pour le psychanalyste qui arrive, qui dit « Ouais, moi, j'ai eu Lacan, j'ai tout compris, alors de toute façon, la mère, elle est réelle. » Bon, mais réelle, si c'est contradictoire, alors elle est réelle parce que le réel, c'est ce qui ne peut pas s'écrire, et la contradiction ne peut pas s'écrire, mais justement, là, ça c'est embêtant pour ceux qui croient avoir tout compris du réel et de la difficulté, parce que ça peut s'écrire très très bien avec cet axiome et cette définition, et la définition qu'on donne. Le fait simplement d'introduire un caractère supplémentaire, voyez, le fait d'ajouter un caractère. Regardez comment je traite les formules de sexuation dans la version que j'ai donnée dans Internet. Je reconnais que c'est. J'ai même mis une version plus courte et plus simple. Hein. On a déjà passé ça. Une version plus réduite. Hein. Et je vais en faire d'autres plus réduites pour vous présenter d'une manière assez directe. Et ce qui est important, c'est que c'est toujours cette histoire de quelque chose qui apparaît et qui disparaît. C'est toujours. C'est pour ça que le modèle du miroir, déjà chez Freud, c'était pas mal, son intuition. Pour dire, on n'a pas localisé, ni de manière cérébrale, ni organique, l'inconscient dans le corps. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite, Freud? Regardez la forme de tout, chapitre 7, il commence comme ça. Hein. La lunette astronomique, ça produit des effets qui font que vous allez avoir des images réelles, mais aussi des images virtuelles. Hein. Donc là, c'est pas localisable. Là, l'image virtuelle, vous pouvez déplacer comme ça la main pour la faire apparaître sur un écran. Donc, vous avez ce modèle optique. Le modèle optique, c'est pas mal, mais à mon avis, c'est encore trop restrictif. Sûrement que le regard avec le narcissisme joue un rôle qui recouvre les autres objets. Hein. L'objet voit sûrement. La droite infinie, elle va tout de suite être recouverte par le narcissisme et le champ scopique. Mais il me semble, si vous voulez, que le problème de faire passer le problème d'un modèle optique ou d'un modèle quel qu'il soit physique, et même, vous voyez, l'enjeu des nœuds. Vous avez des nœuds qui sont avec de la ficelle, mais moi je propose de les écrire, de les dessiner. Le mouvement nœud, vous ne pourrez pas le faire avec de la ficelle. Il n'y a pas de modèle physique du nœud, du mouvement nœud. Hein. Alors que ce sont des faits décrits. C'est pour ça que j'oppose à langage, hein, j'oppose à formel, sous l'aspect de forme matière, j'oppose quelque chose qui s'appelle écriture, système d'écriture. Parce que c'est incontestable, voyez-vous, ces trucs-là, c'est des systèmes d'écriture bien définis. Alors voilà, seulement il y a le mot système. Alors ça va encore gêner un peu nos fantoches ou nos chochottes qui vont être là, oh, système, ou systématisé, il ne faut pas systématiser. Bon. Mais justement, ce qui est très intéressant, c'est de voir que même en fabriquant des systèmes d'écriture, on va réussir à faire fonctionner cette structure-là de l'effacement et de la différence qu'il y a entre la théorie des ensembles et la topologie, par exemple. Je peux vous montrer ça pour finir, vous allez garder ça pour les vacances. Regardez comment ça se présente. J'efface le tableau.